Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dimanche dernier, la foule a acclamé Jésus alors qu'il entrait dans Jérusalem, espérant de lui qu'il est le Messie, le libérateur d'Israël. Et pourtant, rien ne va se passer comme attendu. À l'image un peu des béatitudes, comme je le disais la semaine dernière, cette charte de la vie chrétienne, selon l'expression de mon invité de ce matin, charte pleine de paradoxes apparents, charte folle et pourtant rien moins que clé de la vie éternelle. Frère Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Sixième bonjour pour cette dernière émission de notre série de carême avec vous. Je vous représente brièvement. Vous êtes donc franciscain et cofondateur donc de la communauté de l'Agneau, présente entre autres à Toulouse. On a présenté à plusieurs reprises la communauté de l'Agneau. On a dit où on se trouvait, je le redis une dernière fois, dans les collines, où à force de passer du temps, on aimerait presque rester, où vivent des frères et des sœurs, dans des lieux séparés, dans des petits ermitages, en petites communautés. Du coup, il y a toujours une chapelle où aller prier ou rejoindre un office. Voilà, c'est un très bel endroit et assez étonnant. Dernière béatitude, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je lis la suite. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Comment introduiriez-vous cette dernière béatitude et puis les deux développements qui suivent ?
Alors d'abord, en regardant un tout petit peu l'aspect littéraire qui est tellement important, dans la manière d'écrire hébraïque, on est tout le temps la même structure littéraire. On dit quelque chose au début, on le reprend à la fin, et au milieu, on dit l'essentiel, le cœur. C'est très très frappant. Alors ici, la première béatitude, c'est « Bienheureux les pauvres ». On a vu que c'était le porche d'entrée de la vie chrétienne, de la charte de la vie chrétienne. Et puis, la dernière béatitude, c'est « Bienheureux les persécutés pour la justice ». Et, ah oui, elles se répondent parfaitement, d'autant plus que la réponse est la même. Le royaume des cieux est à eux.
Est à eux, c'est la seule fois où il y a un présent. C'est les deux seules fois où il y a un présent.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est très très clair. C'est maintenant, j'aime bien cette remarque que tu fais, c'est maintenant que celui qui entre dans les béatitudes, celle de la pauvreté qui dit tout, celle de la persécution qui dit tout, que l'on goûte et que l'on entre dans le royaume. C'est une chose qui est faite pour celui qui veut la pauvreté et qui ne se ferme pas complètement à la persécution. Donc première chose, hein, ces deux béatitudes, pauvres, persécutés, en chasse complètement tout le texte. Alors, les persécutions, il y a deux rebondissements, mais qui répètent la même parole en l'actualisant, en la rendant un petit peu plus vivante. Mais ça forme un bloc très très simple. Et du coup, avec ces deux rebondissements, ça nous amène au chiffre de 10. Alors, je sais bien que des exégètes n'aiment pas ça, mais moi je me dis, tiens, c'est comme le décalogue, c'est pas du tout un nouveau décalogue, mais tiens, c'est comme la même structure, les 10 paroles, les 2 mains qu'on montre, voilà, les 2 fois 5 doigts. Voilà. Alors, maintenant regardons cette béatitude pour elle-même. Bienheureux les persécutés, mais en disant ça, Jésus dit son portrait, dit qui il est, dans le lieu essentiel de son existence. Et comme nous sommes au seuil de la semaine pascale, nous devons le savoir, le tout du christianisme est donné dans la Pâque de Jésus. Là se révèle que Dieu est amour et que cet amour est vainqueur de la mort. Alors, je dis ces mots un peu pesamment, parce que lentement, lentement, dans ma vie, cette conviction s'est établie J'ai failli dire comme une espèce d'évidence, mais oui, je crois, oui, je peux le dire. Oui, je vois que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, indissociablement liés l'une à l'autre, la mort qui entraîne la résurrection, la mort qui est le plus grand amour, entraîne la résurrection qui est la vie la plus grande. Déjà, l'entrée dans la vie après la vie biologique. Il y a deux termes toujours dans l'écriture pour dire la vie. Il y a la vie biologique et puis il y a la zoé, qu'on trouve dans le mot zoologie par exemple, qui est la vie en plénitude. La vie spirituelle envahissant tout jusqu'à ressaisir la vie biologique et lui donner une nouvelle forme, un nouvel aspect, des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Donc, la dernière béatitude condense en elle-même tout ce qui a été dit et constitue le portrait de Jésus dans le moment le plus important, sa Pâque, sa mort, du fait de la haine des hommes, pas du tout des Juifs, de l'humanité entière.
Qu'est-ce que cette béatitude promet ? Alors, on aurait pu poser la question à chaque fois, mais je voudrais que vous développiez un tout petit peu la manière dont il faut comprendre ce présent. Vous nous avez dit à propos de la première béatitude, avec pas mal d'exemples, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Comment, selon vous, évidemment c'est aussi la grande tradition de l'Église, celui qui est vraiment pauvre en esprit et qui se tourne vers Dieu reçoit quelque part la présence de Dieu dans son cœur. Je le résume très très mal. Là du coup, qu'est-ce que Dieu promet ? Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Alors, Jésus, Dieu fait homme, passe par la mort. C'est la fameuse hymne aux Philippiens. Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant condition d'esclave, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc cette espèce de descente dans l'abîme, dans la mort effroyable de la croix, dans les enfers, exprime le plus grand amour qu'est Dieu. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est aimer jusqu'au bout. Jésus l'a dit clairement, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Dieu qui est amour, que fait-il ? Il donne sa vie pour ses frères. De quelle manière ? En étant rejeté par les siens. Alors, voilà pour moi la clé, mais je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
C'est-à-dire qu'en fait, à vous entendre, La persécution pour la justice, c'est la manifestation en fait du royaume de Dieu, c'est-à-dire que d'aller jusqu'au bout, donner sa vie jusqu'au bout pour que la justice soit dite et proclamée, c'est cela manifeste le royaume. Mais quelle est la promesse pour ceux qui vivent cette persécution ?
Alors, comme Jésus à sa croix, on voit l'effroi. Si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant pas ma volonté mais la tienne, avant d'entrer dans la passion. Et à la passion elle-même, ce cri très étonnant de Jésus, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est très fort. D'autant plus que jamais Jésus ne dit « mon Dieu » à son Père. Tout le temps dans l'Évangile, quand Jésus parle au Père, il dit « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Ce qui est tout à fait irrecevable, en tout cas dans ma mentalité à moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à m'adresser à Dieu en disant « Papa ». Et pourtant, c'est la prière que Jésus nous donne. Alors, le Christ entre dans une déréliction totale et il sait que de cette manière-là, il exprime le plus grand amour. Je suis convaincu que les martyrs éprouvent ce double sentiment. On peut penser aux 20 martyrs coptes, décapités. Le père Christophe, l'évêque cofondateur de la communauté.
Donc cardinal-archevêque de Vienne.
Oui, exact.
Christophe Schönborn.
Il a été rencontré en Égypte, en Haute-Égypte, les familles de ces martyrs. Et ce qui l'a le plus frappé, c'était la joie des épouses, des mamans, des enfants, et des mamans et des papas et des enfants, comme s'ils étaient visités par une grande fierté. Et puis, le sentiment que vraiment, papa, épouse, enfant, d'un seul cœur, chantent les louanges des martyrs. Et alors, je crois que j'ai déjà donné cet exemple de saint François. Il y a eu, au début, pendant la vie de saint François, je l'ai raconté ça, non, sept franciscains qui ont été martyrisés au Maroc.
Peut-être, mais allez-y, vous pouvez le raconter. Les émissions passant.
Oui. Donc, François a proposé uniquement à ceux qui le voulaient d'aller vers les Sarrasins. Il n'a jamais envoyé quelqu'un au casse-pipe, si on peut dire, de cette manière-là. Mais il s'est tout de suite trouvé des frères qui se sont portés volontaires pour aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux musulmans, persuadés à l'avance de leur sort, puisque c'est une règle qui vaut encore aujourd'hui, mais qui est peut-être en train de bouger dans l'islam. Il semble bien qu'il y a des pays qui s'interrogent sur ce que signifie tuer quelqu'un qui soit apostasie d'islam, soit qui vient prêcher une autre religion dans un pays musulman, sous la loi islamique. Donc saint François les envoie, et quand il apprend leur mort, il dit « Maintenant, je peux dire que j'ai 7 frères mineurs. » Ah oui, ceux-là ont accompli. Alors, la famille des décapités du bord de la mer en Libye, de ces Coptes qui venaient chercher du travail, il y a une joie qui accompagne cette mort, une fierté, une légitime fierté. Et alors, je suis persuadé que papa, maman, épouse, enfant, savent très bien que cette amitié, cette affection qui les lie aux uns aux autres n'en est que plus forte. Et là, je peux aussi donner le témoignage de ma mère. Quand mon père est mort, maman avait 61 ans, et je lui ai dit, parce que je me disais, comme elle est la maman d'un franciscain et d'un prêtre, peut-être se fera-t-elle une obligation de ne pas se remarier. Et je lui avais dit, tu sais maman, en toute justice et en toute vérité de la morale de l'Église, tu peux te remarier. Et maman m'avait répondu du tac au tac, mais ça m'avait beaucoup touché, mais je n'ai aimé et je n'aimerai que ton père, d'amour conjugal. Et quand maman m'a dit ça, j'ai tout de suite compris quelque chose de profond. Par-delà la mort, continuait un lien vivant et fort de charité. Et ça s'est vérifié tout au long du long veuvage de ma mère qui a duré plus de 20 ans. Papa était présent à ses problèmes et on avait très peur que va devenir maman sans papa. Et ça s'est finalement très très bien passé, d'après moi. Hein.
Frère Jean-Claude, je vois le temps qui passe. Pourquoi cette béatitude ? Il serait urgent aujourd'hui dans notre monde d'arriver à rentrer dedans. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ça peut être un peu provoquant de poser une telle question. Qu'est-ce que vous diriez ?
Mais c'est curieux, hein. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cela, mais je veux bien répéter. S'il n'y a pas entre les humains l'amour des ennemis, et d'ailleurs, il y a eu des règles de la guerre, elles ont sauté avec la guerre totale dès 42 par Hitler, hein. Ça a sauté là. Bon. Et on a vraiment l'impression, notamment en Algérie, qu'il n'y avait plus de droits humains à respecter. Et pourtant, quand De Gaulle est allé en Algérie, il avait dit « Le téléphone est fait pour parler, non pas pour faire parler. » Donc il écartait la torture électrique, hein, qui est effroyable et très très scandaleuse comme pratique. Et alors, donc, si y avait des règles de la guerre, Et à la bataille d'El Alamein, les troupes allemandes, les troupes nazies, ont rendu les honneurs quand les derniers, qui n'avaient plus de munitions, qui n'avaient plus rien, se sont rendus. Et les Allemands ont rendu, les soldats allemands ont rendu les honneurs aux soldats alliés qui étaient faits prisonniers. Il y a eu la même chose à Beach, une forteresse dans le nord-est de la France qui a résisté bien au-delà de l'armistice. Et on leur a dit, ben maintenant il faut vous rendre. Et quand ils se sont rendus, l'armée allemande leur a fait une haie d'honneur et leur a salué par les armes. Et ça, je me dis, on a l'impression que dans notre époque, ceci s'est complètement évanoui. Et alors on est dans une espèce de violence qui se nourrit elle-même et qui n'a pas de terme. Et alors je me dis, forcément, le « aimez vos ennemis », il touche beaucoup de cœurs humains. Et il fait comme une espèce de rempart et une protection à toute l'humanité. Sinon, on s'entretuerait à qui mieux, sans aucune raison de s'arrêter. Et là ensuite, ça me pose une question. Quand des chiens se battent, ou des chevaux se battent, ou des vaches se battent, quand le plus fort va tuer l'autre, le chien montre sa gorge et le combat arrête net. Seulement, le chien vainqueur, il est reconnu comme le maître. Et l'autre, ben, il va rentrer dans le rang. Mais les humains, on se bat comme des, non pas comme des chiens, mais comme des humains, et c'est terrible. Quand il n'y a plus ces règles de la guerre. Alors je vois qu'aujourd'hui, elles sont comme évacuées par la violence des combats et des idéologies. Et alors je me dis, tous ceux qui entendent bienheureux les persécutés pour la justice, qui sentent que la persécution est pour eux la source d'un bonheur inimaginable et profond, alors ceux-là sont des éléments de réconciliation et de paix. Et je me dis, c'est eux qui actuellement équilibrent les forces dangereuses qui se développent dans le monde.
Merci beaucoup, frère Jean-Claude. On va faire une première pause et on vous retrouve après pour quelques illustrations, comme le veut cette émission. Voilà, on vous retrouve après cette courte pause musicale.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est donc la dernière émission Vivante Église de notre grande série de carême ce matin, pour rappel, sur les béatitudes, avec cette huitième béatitude et ses deux développements derrière, qu'on reliera peut-être un petit peu plus loin dans cette émission avec le frère Jean-Claude, qui nous a fait donc l'amitié de nous accompagner tout au long de ce carême, les lundis, chaque lundi de carême. Nous sommes donc dans le lundi, évidemment, d'entrée dans la Semaine Sainte. Quelques exemples, comme le veut la tradition, qui pour vous peuvent aider à comprendre cette béatitude. Vous vouliez nous parler, pour commencer, d'Edith Stein.
Oui.
Redites-nous peut-être en quelques mots, qui est Edith Stein ?
Edith Stein est une juive allemande qui, après... philosophe et professeur de philosophie, qui a beaucoup combattu pour l'égalité de la femme, pour la dignité de la femme, qui était juive et qui, lors de sa conversion, a créé une grande souffrance à ses parents. Je crois que son père était mort, oui, à sa maman, qui n'a jamais pu accepter pour elle l'apostasie de sa fille. Mais elle, Edith Stein, a eu au contraire le sentiment...
Donc elle était juive et elle est devenue chrétienne.
Elle est devenue chrétienne et religieuse, carmélite, en Allemagne, à Cologne d'abord, et puis après ça, en Hollande. Et elle a, elle, vraiment fait l'expérience que le christianisme accomplissait sa foi juive. Les juifs la voyaient comme une apostate, et elle se sentait très très fortement... comme quelqu'un qui, au contraire, accomplissait sa foi juive et la menait à son vrai terme. Bon, c'est... Et alors, elle a donc fui la persécution nazie en allant de Cologne en Hollande, où elle était accueillie dans un carmel à Etcht, dans la Hollande. Et là, quand la Hollande a été envahie, la Gestapo est venue l'emmener. Et elle a dit à sa sœur, au moment de partir en camp de concentration, en sachant parfaitement ce qui allait lui arriver, elle lui a dit « Allons pour notre peuple ». Et elle allait donc directement au martyr, volontiers, en y entraînant sa sœur. Et dans une gare, elle a pu passer un petit message que je trouvais effroyable. « Nous sommes dans nos excréments ». Et dans ce mot, on comprend que les nazis voulaient non seulement tuer le corps, mais anéantir les âmes, détruire la dignité de la personne. Et alors, elle s'est trouvée, avant d'être envoyée à Auschwitz, elle s'est trouvée dans un camp de rassemblement des juifs en Hollande. Et là, il y avait un espèce d'immense désespoir qui accablait tout le monde. On était pris dans une souricière, on ne pouvait plus rien faire. On se savait promis à une mort ignoble. Et il y avait un grand désespoir dans ce camp. Et notamment des mamans et des enfants. Des mamans et des enfants. Et beaucoup de mamans, dans leur accablement, leur désarroi, ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants. Et Edith Stein s'occupait d'eux, les peignait, les caressait, les remettait à leur maman et refaisait fonctionner la charité, d'où la terreur, que la terreur avait fait dérailler, même chez les cœurs des gens. Donc voilà, quelle persécution et qu'elle a endurée, et comment, au cœur de la persécution, elle a senti vivre en elle cet amour chrétien qui passe la mort. Voilà, c'est la première histoire que je voulais raconter. Et puis la deuxième, c'est emprunté à Saint-Dominique. C'est une histoire qui s'est passée pas très loin d'ici, à une quinzaine de kilomètres d'ici, à Vangeau, où Saint-Dominique a été pendant une dizaine d'années curé de ce petit village. Et la région, dans la région, il y avait beaucoup de cathares, tant et si bien qu'aujourd'hui encore, sur tout le bord des routes, on nous annonce qu'on est en pays cathare. Et il y avait quand même une guerre, hélas, à couteau tiré entre cathares et catholiques. par le jeu politique et puis peut-être aussi par l'influence du pape de l'époque qui était une sapristi de personnalité. Son nom m'échappe d'un coup. Bon. Et alors, les cathares ont tendu un piège à Saint-Dominique et l'ont entraîné, finalement, l'un d'entre eux, prétendant le guide, a entraîné Saint-Dominique au milieu des broussailles. Et alors, il est tombé au milieu de gens qui voulaient le tuer, et par sa simplicité, sa bonté, il les a désarmés, et il pose la question à Saint-Dominique, et si on t'avait tué, qu'est-ce que tu aurais dit ? Et il a répondu, c'est pour ça, je m'excuse de dire ça aux auditeurs, hein, mais il a répondu, je vous aurais demandé de me tuer à petit feu. C'est, je demande pardon, hein, ces mots est irrecevable, mais il fait partie de l'histoire chrétienne parce qu'il est souvent répété et vécu par des chrétiens martyrs. Que ce soit les martyrs de Nagasaki, ceux de la Libye, ou de n'importe quelle autre époque, de n'importe quel moment, il y a une joie mystérieuse qui permet d'endurer la souffrance en gardant la paix. On peut se rappeler que quand il y a eu, je crois que c'était au Salvador, il y a eu 19 jésuites tués, je ne sais plus dans quel pays, enfin d'Amérique centrale. Et le père général a demandé si des jésuites voulaient bien les remplacer. Et aussitôt, il y a eu plus de 19 jésuites qui disaient « Oui, on veut bien prendre leur place » avec les dangers que ça représentait. Et je crois que ce dynamisme qui anime les martyrs est très typique de ce que propose la vie et la mort de Jésus. Mais ceci ne fait pas que tous les chrétiens soient prêts aux martyrs. Mais ça fait que partout, toujours, il y a des hommes qui sont animés de cet esprit. Et qu'ils ont le nom de chrétien ou non, ça ne change rien à l'affaire. Mais un homme qui, par amour, par fidélité à l'appel qu'il a dans son cœur, donne sa vie pour ses frères, comme l'exemple dont tu me parlais tout à l'heure, en quel pays tu m'as dit ?
Je ne vois pas à quel exemple vous voulez faire référence.
Mais si, dans un pays de Russie.
Pendant la pause, je parlais de la Tchétchénie. Alors, ça me permet de vous poser cette question. Là, vous parlez en fait de les deux exemples que vous citez. Donc, ce sont des situations de persécution parce que les dites personnes sont chrétiennes ou juives. Pour Einstein, les deux à la fois, probablement. Quid des gens qui vivent en fait une persécution pour la justice, mais qui ne sont pas chrétiens ? Sont-ils promis à la même béatitude ? Et si oui, est-ce que vous pourriez prendre un exemple ? Et en effet, je disais que moi, cette béatitude, pardon de parler de moi, mais puisque vous me lancez, me fait penser à ces gens qui se battent dans des ONG, entre autres en Tchétchénie, contre un régime fou et en partie barbare, et qui ne sont pas spécialement peut-être des gens qui sont chrétiens, mais qui se battent pour le respect de la dignité des Tchétchènes.
Alors, ça répond à un point typique de ce qu'a voulu Jésus. Quand Jésus parle de son royaume, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans les émissions précédentes, il parle d'un royaume qui va d'une mer à l'autre. Ce qui veut dire qu'il recouvre la totalité de la terre, quand dans la géographie de l'époque, la terre était entourée par la mer de tous côtés. C'était une grande île. Et quand Jésus parle d'un royaume qui va d'un bord à l'autre, il veut dire un royaume universel. C'est-à-dire que l'appel de Jésus est quelque part constitutif de la nature humaine dans sa plus grande profondeur. Alors, comme disait Blaise Pascal, ça m'a beaucoup touché, j'ai lu ça sous la plume de Benoît XVI, quand il voit l'état du monde, il dit « Tout se passe comme si une seconde nature avait recouvert la nature bonne créée par Dieu au départ. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. » Et quand on voit l'humanité aujourd'hui, on ne peut pas dire purement et simplement « Tout cela est très bon. » Et alors Blaise Pascal, réfléchissant à ça, dit « Il semble que dans l'histoire humaine, une seconde commune, comme une seconde nature, se soit imposée à cette bonté foncière de l'homme. Mais, dans le fond de mon cœur, je suis convaincu que cette bonté foncière appartient à tous les hommes. Et je cite toujours, dans ce cas-là, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais l'exemple de Youri Dombrovski, qui était un dissident russe, qui, comme beaucoup d'entre eux, à la manière russe, a écrit un immense roman dans lequel il recisait son histoire et l'histoire de son peuple. Et on sait très bien les ressentiments que pouvaient nourrir les prisonniers politiques, les zèques de l'Union soviétique contre Staline. Et on raconte cette histoire que quand on a annoncé la mort de Staline, tous les prisonniers ont jeté leurs bonnets et poussé des cris de joie. Et lui, cet auteur, raconte comment Staline, un jour, a fait grâce à un de ses collègues, enfin amis, de compagnons d'école, je pense quand ils étaient enfants, et qui, pris par le KGB, a envoyé une lettre qui, Dieu sait comment, est arrivée jusqu'à Staline. Et Staline lui a fait grâce. Et ça me touche beaucoup de voir que cet homme qui a souffert de Staline a été capable, en reprenant un récit dans lequel il décrit le tyran, de faire cette petite note de bienveillance, de compassion, d'amour vrai. Et alors, c'est ma pensée peut-être la plus forte. Le royaume de Jésus est d'une mère à l'autre. Il est universel. Et on voit bien, ça se sent très très fortement aujourd'hui, que les groupes humains essayent de se rassembler en petits groupes opposés les uns aux autres. Ce qui se passe en Espagne en ce moment, avec la Catalogne, et autrefois avec le Pays Basque, c'est très typique des groupes qui sont proches les uns des autres et qui se constituent comme ennemis farouches les uns des autres. Alors, je me dis, c'est indéniable ça dans l'histoire humaine. Mais je crois que plus profond dans l'histoire humaine, il y a cette bonté foncière qu'on ne peut pas perdre. Chez tout homme, il y a une capacité de bien, de bonté, de pardon, d'amour de l'ennemi. Alors, elle peut être bloquée par un tas de systèmes à la Tamerlan ou bien à la Hitler, mais peu importe. Je suis persuadé qu'il y a des hommes de Daesh qui sont capables de pardonner. Et il faut qu'il y ait des hommes qui, dans la société aujourd'hui, lancent cet appel à la paix, au pardon, à la réconciliation. Ils existent en grand nombre.
Frère Jean-Claude, excusez-moi, je vous coupe. Je vois le temps qui passe.
Oui.
Dernière question, est-ce que vous auriez un visage qui vous reviendrait, qui, pour vous, symbolise cette béatitude, même si vous avez cité beaucoup de gens, mais ce n'est pas forcément des gens que vous avez connus. Quand vous faites mémoire comme ça et que vous lisez cette béatitude, est-ce qu'il y a un visage qui vous revient et si oui, lequel?
Est-ce que j'ai déjà parlé de Jean Gosse?
Oui, hein. Oui, mais il y a longtemps, donc éventuellement vous pouvez en reparler.
Oui, c'était dans les camps de concentration nazis.
Alors, c'est pas un visage que vous avez connu.
Non. Ah oui,
voilà,
oui,
ma question,
excuse-moi.
C'était par hasard. Enfin, si, oui. Je veux pas trop vous contraindre, mais si, s'il y avait
tout à fait.
Le visage d'une personne connue, rencontrée.
Oui, tu me le dis depuis longtemps et je suis pris au dépourvu. Pardonne-moi.
Voilà, écoutez, je ne veux pas vous contraindre, vous pouvez parler de Jean Gosse.
Parlez
de Jean Gosse, si vous voulez.
Non. Je pense au curé d'Agbou, où j'étais en Algérie, donc entre les deux Kabylies, la grande et la petite, dans la vallée de la Soumam.
Donc entre, lorsque vous avez fait la guerre d'Algérie.
Oui, début 58, du 1er janvier 58 à février 59. J'étais donc en Algérie, dans le secteur du fameux Amirouche. Vraiment un excellent combattant, mais un homme qui a commis beaucoup d'atrocités et on a su lui répondre, hélas. Mais dans ce lieu, le curé, qui était un Suisse, qui avait demandé à être missionnaire et qui avait abouti dans ce petit village d'Agbou, où il était complètement enclavé dans un petit village européen à côté du petit village kabyle. Et cet homme qui était un homme peureux. Quand le canon donnait, ça donnait souvent, ou quand les mitrailleuses partaient, c'était presque toutes les nuits, et souvent pour des bêtises, pour un chacal pris dans les barbelés ou n'importe quoi. Mais il y avait un climat de panique et de peur, et on se sentait rassuré par le bruit des mitrailleuses, des obus éclairants et des coups de canon. Mais lui, ça lui causait une terreur. Eh bien, cet homme, terrorisé par la menace, il partait tous les mois dans un convoi, avec tous les risques qu'il y avait, pour aller dire la messe dans des postes militaires éloignés. Et sa figure me revient, parce que c'est vraiment un homme qui allait au-devant de la mort et de la persécution, et c'était certain. Et finalement, effectivement, il a été fait prisonnier, tout à fait à la fin de la guerre. Et ça disait bien l'état de cette guerre, il n'a pas été tué, et il a été libéré comme un espèce de signal donné de la part des rebelles que maintenant c'était eux qui étaient les maîtres. Ils pouvaient faire grâce à un de leurs ennemis. Mais le curé n'était pas proprement parlé leur ennemi, hein, il n'avait pas de revolver. Voilà, mais cet homme qui, dans la persécution, est resté paisible et a pris, a toujours été au-delà de sa peur, au-devant de la mort. C'est pour moi une très très belle image.
Merci beaucoup, frère Jean-Claude. On fait une pause, à dire la dernière de notre série, et on vous retrouve pour un dernier quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, pour, comme le veut la coutume, quelques conseils spirituels autour donc de cette dernière béatitude. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Emmanuel Pella.
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà donc la dernière béatitude pour cette dernière émission de notre série de carême avec le frère Jean-Claude, franciscain et cofondateur de la communauté de l'Agneau. Frère Jean-Claude, pour cette dernière béatitude, quels seraient vos conseils spirituels voilà, peut-être pour ceux qui vivent cette forme de persécution pour la justice, comme pour ceux qui ne la vivent pas. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour nous aider à rentrer dans cette ou à comprendre cette béatitude?
Alors, il me semble que d'abord bien voir que cette béatitude est au cœur et le terme de toutes les béatitudes, et c'est le centre, l'épicentre de la vie chrétienne, de la vie de Jésus.
Vous voulez dire qu'en fait, aucun chrétien ne peut vivre sans un moment être confronté à cette persécution ?
Exactement. Par une persécution mortelle et physique, mais par toutes sortes de persécutions qui nous arrivent, parce qu'on ne comprend pas, un professeur qui ne vous comprend pas, une dispute dans un couple, et tout d'un coup, on lâche des mots qu'on n'aurait pas voulu lâcher. J'étais témoin de ça. Une histoire amusante. Ma nièce parlait mal à sa maman. Et ma mère me regarde et me dit, « Dis à ta nièce qu'on ne parle pas comme ça à sa mère. » Et j'ai répondu, « Maman, dis-leur plutôt comment tu étais toi avec ta propre mère. » Et maman, spontanément, a raconté que quand elle était enfant, elle était poursuivie par sa mère avec un balai et qu'elles tournaient toutes les deux autour de la table de la salle à manger. Et que maman disait, je l'aurai, je cours plus vite qu'elle. Elle va mourir en essayant de me rattraper. Bon, alors, ce sont ces sentiments-là qui nous habitent pour n'importe quoi, qu'il faut savoir.
Mais quel est le rapport avec cette persécution pour la justice ?
Eh bien, ma mère était à la fois persécutée, persécutrice, et elle pensait qu'elle aurait le bon bout. Et moi, je me dis, très bien, quand ces choses-là nous arrivent, il faut regarder la croix de Jésus. Mais je pense, la croix, c'est pour ça que les chrétiens mettent des calvaires partout, pour que le chrétien se mette toujours en présence de ce grand mystère qui est le tout de la foi chrétienne, la croix victorieuse de tout mal. Et alors tout d'un coup, il me vient une image, il y avait dans l'entrée du monastère des Augustines à Lannion, un petit cadre, pas de grande valeur, mais qui représentait un cheminot. Il y en avait beaucoup dans mon enfance, de ces hommes qui n'avaient pas de travail et qui allaient de ferme en ferme, où on leur donnait un peu à manger et où ils faisaient quelques menus travaux, bien qu'ils étaient trop vieux pour travailler. Et ils allaient comme ça prendre un repas à droite à gauche et dormir dans un fossé ou dans un fenil. Et cette figure représentait un cheminot, donc un très pauvre homme, passant devant un crucifix et saluant le crucifix. Et toujours, je regardais cette image absolument fascinée. Mais c'est cet homme qui sait ce que c'est que le christianisme et qui salue avec révérence le crucifié. On trouve ça dans la vie de Saint-Dominique, on trouve ça dans la vie de Saint-François. Alors, conseil...
Votre conseil.
Très pratique. Ayez des croix dans votre maison, soit des croix très simples, sans la figure du Christ. Mais... S'il y a la figure du Christ, il ne faut pas que ce soit un Christ simplement douloureux et souffrant, parce que les paroles que dit Jésus à la croix, le pardon qu'il donne à ses ennemis, la confiance qu'il fait finalement à son Père, Marie qu'il donne à Jean comme mère, tout cela, toutes ces paroles montrent que pendant sa passion, il était habité par une joie profonde. Et alors, je me dis, ayez des croix dans vos maisons, regardez-les, mais des croix qui signifient à la fois la souffrance, la mort et la gloire et la vie. Alors, dans toutes nos communautés, on a adopté la crucifix de Saint Damien. Tiens, elle n'est pas dans cette pièce, mais il y a celle de Saint Clément à Rome. Et ayez une croix qui puisse manifester en même temps la mort et la vie nouvelle que Dieu donne. Une croix qui ne représente que la souffrance n'est pas chrétienne. Or, aujourd'hui, hélas, la plupart des croix qu'on nous met sous les yeux sont des croix qui ne montrent que la souffrance du Christ. Et à mon sens, du point de vue évangélique, elles sont trompeuses, ces croix. Il faut donc que, lorsque vous regardez même une croix de type doloriste, vous puissiez voir, vous, par la foi, la gloire qui fait partie de cette croix. Et je me souviens très bien, quand j'étais en cours de théologie, notre professeur nous disait tout le temps, mais une croix sur laquelle il n'y a pas une auréole de gloire ou un peu de lumière, ou comme celle de saint Damien, un grand crucifix, les bras grands ouverts, qui semble danser sur la croix et dont les cheveux bien bouclés nous apportent son triomphe, ses yeux grands ouverts, la paix de son regard et de son sourire. Ce crucifix seul peut dire la croix de Jésus. Voilà mon premier conseil, il y a donc une croix dans vos maisons qui dise le mystère chrétien et non pas quelconque mystère païen et antichrétien.
Auriez-vous un autre conseil pour finir ? Je pensais par exemple, c'est ce que je vous disais pendant la pause, que diriez-vous à tous ceux qui font face à des injustices dans leur vie, familiale, professionnelle et autres, et qui n'osent pas dénoncer cette injustice parce qu'ils savent que les risques encourus sont considérables ?
Bon, énorme question, parce qu'elle met en cause la lâcheté de chacun devant l'injustice. Et alors ça, quand je regarde mon existence, c'est sans doute le péché dont je dois le plus me confesser, la lâcheté. Voir quelque chose de mal, d'injuste, et ne pas avoir la force de prononcer les mots qu'il faut, les avoir dans le cœur et ne pas pouvoir les mettre sur ses lèvres. Je fais cette expérience tout au long de ma vie, soit pendant la guerre d'Algérie ou n'importe où ailleurs. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans le fond de mon être, il y a une grande lâcheté. Que faire ? D'abord, la reconnaître. Hein. Ah bon ? J'appartiens à la multitude des lâches. Et que faire ? Alors, je crois qu'en regardant la croix, je vois la fermeté, le courage, la droiture, la force de Jésus. Et quand je regarde la croix, je dis à Jésus, mais que cette croix descende dans mon cœur, avec la puissance vitale qui t'habite, avec la vie de Dieu qui est en toi. Et puis regarde le pauvre homme que je suis, la lâcheté qui m'habite tout le temps. Combien de fois, au milieu de mes frères franciscains, en entrant au réfectoire ou ailleurs, j'étais pris d'une panique intérieure insurmontable et très typique des gens que je connaissais parfaitement. Au moment de leur dire bonjour, le nom m'échappait parce que une peur me tenaillait au ventre, parce que je savais très très bien que dans ce groupe-là, ma pensée n'était pas la leur, mon idéologie n'était pas la leur, la panique me prenait. Alors je vois très très bien que l'appel que je me lance à moi-même et que je lance aux autres, connaissez cette lâcheté qui vous habite, regardez la croix de Jésus et demandez, moi je le fais depuis pratiquement mon adolescence, Seigneur, me donneras-tu un peu de ton courage ? Quand feras-tu de moi un homme digne de toi, digne de ton amour, digne de ta croix ?
Eh bien, merci beaucoup, frère Jean-Claude, pour cette magnifique série d'émissions. Voilà, frère Jean-Claude, a répondu à la plupart de mes questions les yeux fermés. Voilà, non pas qu'il ne voulait pas me regarder, mais on sentait qu'il était intensément concentré pour essayer de s'adresser peut-être à chacun d'entre vous. En tout cas, je remercie vraiment profondément la communauté de l'Agneau d'avoir fait ce cadeau, d'avoir cette série d'émissions avec vous. Nos auditeurs et nous tous avons de la chance d'avoir des hommes qui cherchent Dieu comme cela dans notre sud-ouest et de pouvoir nous accompagner dans notre vie chrétienne. Un grand merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Et l'ensemble de cette série d'émissions sera aussi disponible sur notre site internet dans un dossier spécial Carême. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.